Avec le temps, j'ai découvert que beaucoup de gens me connaissent, mais moi, je ne les connais pas. Ils m'ont vu dans une assemblée, j'étais sur l'estrade. Alors, tout le monde pouvait me voir, mais moi, je ne connaissais pas les gens qui étaient dans la salle. Alors, après, ils me saluent, ils m'appellent par mon nom, et c'est embarrassant parce que moi, j'ai aucune idée qui c'est. Ce qui est encore plus embarrassant, c'est que j'ai une difficulté à mettre le visage avec le nom correspondant. Ce qui fait que je me trompe souvent. Alors j'ai fait un arrangement avec ma femme, qui est meilleure que moi dans ce domaine-là. Je lui ai dit, si on rencontre des gens et qu'on parle avec ces gens-là, si par hasard tu ne sais pas leur nom, ne me le demande pas. Parce que si tu ne le sais pas, c'est sûr que moi je ne le sais pas non plus. On oublie les noms, on oublie les visages, et avec le temps aussi, nos visages changent, il y a des gens qu'on ne reconnaît pas. On rencontre des gens, ils nous disent, vous vous souvenez de moi, on s'est rencontrés il y a 25 ans à tel endroit. Mais je ne sais pas comment ils ont fait. Eux, ils m'ont reconnu, mais moi, je ne les ai pas reconnus. Cependant, par la foi, par notre expérience personnelle, nous pouvons voir un visage et connaître un nom que nous n'oublierons jamais, c'est le nom de Jésus. Par la foi, nous pouvons le contempler, apprendre à le connaître. Et ce visage-là, lorsque nous le voyons, il reste dans notre esprit. C'est vrai que nous n'avons pas d'image du visage de Jésus, nous n'avons pas une description de ses traits. Même les vieilles images les plus anciennes que nous pouvons avoir ne donnent pas une représentation juste des traits du visage de Jésus. Cependant, nous avons dans les Écritures un certain nombre d'indications sur ce qu'était son caractère, sur l'attitude que Jésus avait dans son ministère parmi nous. Et j'aimerais regarder cela avec vous ce matin. Dans l'Ancien Testament, nous avons de nombreuses invitations à chercher la face de Dieu. Dieu nous invite à rechercher sa face, une expression que l'on retrouve couramment dans l'Ancien Testament. Et cependant, vous vous en souvenez, lorsque Moïse s'adresse à Dieu et lui dit « Fais-moi voir ta bonté. » Dieu lui dit « Je ne pourrai pas te montrer ma face parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Mais je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Alors, est-ce qu'on peut voir le visage de Dieu ou est-ce qu'on ne peut pas? Je crois que nous pouvons, par notre expérience, par la foi, contempler le visage de Jésus. Ses disciples ont cette grâce-là, au travers de leur démarche de foi, au travers de leur expérience dans leur relation avec le Sauveur lui-même. Alors, que nous disent les évangiles sur le visage de Jésus? J'aimerais ce matin relever quatre caractéristiques seulement du visage de Jésus. Il y en a d'autres, bien entendu, mais ces quatre caractéristiques sont peu souvent mentionnées et j'aimerais attirer votre attention ce matin sur ces caractéristiques du visage de Jésus. Le visage de Jésus resplendissant. Dans un texte de l'évangile de Luc au chapitre 9, il nous est parlé du visage resplendissant de Jésus. Évangile selon Luc au chapitre 9, au verset 28, il est écrit ceci. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Jésus est en train de voir l'ombre de la croix s'étendre et s'approcher de lui. Il sent venir les jours de sa souffrance. Jésus sent déjà la pression du mal et du péché du monde sur lui. Et Jésus est préoccupé des jours qui sont devant lui. Alors il prend 3 de ses disciples. Il va monter sur une montagne, nous dit le texte, pour prier. Le verset suivant nous dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. C'est la transfiguration. Le visage de Jésus et toute son allure est transformé, il apparaît dans sa gloire. Et vous avez remarqué, il apparaît dans sa gloire alors qu'il était en prière. Jésus va rencontrer là deux personnages très significatifs, Moïse et Élie, les deux témoins. Ils sont témoins de ce que Dieu a accompli dans leur vie, au point que l'un et l'autre sont maintenant au ciel. Et ces deux témoins représentent deux catégories de gens. Moïse représente ceux qui, à la fin, seront sauvés, mais devront passer par la mort. Élie représente ceux qui, à la fin, seront sauvés, mais seront vivants quand Jésus reviendra et ne passeront pas par la mort. Ces deux personnages très significatifs dans l'histoire du peuple d'Israël se présentent et parlent avec Jésus. Mais que disent-ils? Alors nous pouvons imaginer ce que Élie et Moïse disent à Jésus. Nous pouvons imaginer qu'ils disent à Jésus, « Regarde, nous sommes en train de représenter à nous deux tous ceux qui seront sauvés. » Élie et Moïse, ce sont les prémices de tous ceux qui seront sauvés, de tous les temps. Et on peut imaginer qu'ils ont dit à Jésus, « Regarde, nous jouissons déjà de la vie éternelle en perspective de la victoire que tu vas gagner bientôt sur la croix. Nous représentons toute l'humanité sauvée. » Et ils essayent de l'encourager à aller de l'avant avec courage, avec foi, au travers des jours d'épreuve qui l'attendent. Mais le texte ne nous laisse pas complètement au hasard sur le contenu de cette conversation. Il nous est dit dans Luc chapitre 9 au verset 31, en parlant d'Élie et Moïse, qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le mot « départ » ici en français se trouve être dans l'original de notre texte, le mot « exode ». Ils ont parlé de son exode à Jérusalem. Quand on parle de l'exode, Moïse, lui, sait de quoi il parle. Il sait qu'il a vécu ce moment particulier dans sa vie où pendant des années, il dépendait sur les instructions de Dieu un jour après l'autre pour savoir où il allait. Moïse et Élie vont maintenant parler à Jésus de son exode à Jérusalem. Jésus part dans un territoire dont il n'a pas la carte. Jour après jour, il va devoir compter sur les instructions que Dieu va lui donner, sur la force qu'il va recevoir de Dieu un jour après l'autre, heure après heure. Jésus va au-devant de l'inconnu. En affrontant la deuxième mort, Jésus part vers l'inconnu. Et je peux imaginer que Jésus tremblait à l'idée de ce qui était devant lui. Un territoire inconnu, mais qu'il allait traverser par la force que Dieu allait lui donner jour après jour. L'exode de Jésus vers Jérusalem. L'année qui s'ouvre pour chacun d'entre nous est aussi un territoire dont nous n'avons pas la carte. C'est aussi une avance vers l'inconnu. Nous ne savons pas ce qu'elle contient. Et cependant, chaque jour nous sommes invités dans la prière à contempler le visage resplendissant de Jésus. C'est le visage de celui qui a parcouru le chemin avant nous et qui a été victorieux et qui veut nous accorder le bénéfice de cette victoire. Chaque jour, nous sommes invités dans la prière à contempler le visage resplendissant de celui qui est victorieux. Chaque jour, dans la prière, en contemplant le visage resplendissant de Jésus, nous avons l'assurance que, comme lui, nous pouvons avoir le secours du ciel dans notre quotidien. Dans le livre « Message choisi » écrit par Ellen White, volume 2, à la page 433, se trouve cette phrase extraordinaire. « Des anges au service de l'humanité attendent près du trône, prêts à obéir instantanément aux missions confiées par Jésus, d'apporter une réponse à toute prière offerte avec une foi sincère et vivante. » Vous imaginez, il y a dans le ciel des anges au service de l'humanité et ils sont prêts, ils attendent les ordres que le Seigneur va leur donner pour aller répondre aux prières que nous avons adressées à Dieu avec sincérité et avec une foi vivante. Il n'est pas dit que toutes nos prières vont être exaucées comme nous l'avons prévu, comme nous l'avons pensé, comme nous l'avons peut-être même demandé, mais Dieu va répondre à toutes nos prières en son temps, en envoyant ses anges auprès de nous pour le faire. Chaque jour, lorsque nous nous présentons devant Dieu dans la prière, nous sommes invités à contempler le visage resplendissant de celui qui, par sa victoire, veut nous donner la victoire de jour en jour. Il avait dit à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est la promesse qu'il nous a faite. Contemplons chaque jour le visage resplendissant de Jésus, notre Sauveur. Le deuxième élément du visage de Jésus que j'aimerais dépeindre devant vous ce matin, c'est le visage déterminé de Jésus. Jésus est un personnage solide. Jésus est une personne déterminée. C'est un homme capable de faire des choix et des choix non négociables. Jésus est un homme solide. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 9, dans ce chapitre où nous avons lu quelques textes précédemment, un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 51, il est dit ceci. Mais j'aimerais lire ce verset dans une version originale, très proche de la manière dont le texte est écrit dans notre Nouveau Testament. Darby, par exemple, donne une traduction très littérale de ce texte. Luc chapitre 9, verset 51, se lit comme ceci. Or il arriva, comme les jours où il devait être enlevé s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. J'aime cette expression. Jésus a tourné sa face résolument pour aller à Jérusalem. Il a pris une décision ferme et rien ne va changer sa décision. Sa décision est prise, il y va avec conviction, il y va décider d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Jésus est déterminé dans ce qu'il fait. Jésus n'est pas un de ces personnages fragiles. Jésus n'a pas non plus un visage dur, mais il a le visage de quelqu'un qui a une personnalité inébranlable. Quelqu'un qui fait des choix et qui sait pourquoi, et qui les tient. Jésus ne va pas agir sous la pression, il ne va pas agir par complaisance, Jésus va agir par principe. On peut lire sur le visage de Jésus cette solidité qui donne confiance à ceux qui sont avec lui. Vous savez, je suis souvent étonné d'entendre des croyants d'aujourd'hui exprimer très librement la faiblesse de leur foi, la faiblesse de leur expérience personnelle avec Dieu. Ils l'expriment très librement, c'est presque comme si c'était une force d'avoir une vie chrétienne fragile. On entend certaines personnes dire par exemple, « Vous savez, j'ai lu quelque chose sur Internet, ça c'était vraiment intéressant. Je me demande d'ailleurs si l'Église ne s'est pas trompée sur ce sujet-là. » Sur Internet? Ah oui, la vérité d'après Internet et Google, je pense. Ou bien, on entend des gens qui disent « Oh, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'on a dit ça et ça de moi à l'église. Ça suffit, je ne viens plus. » Ah, tu as entendu quelqu'un qui a dit que quelqu'un a peut-être dit ceci de ta part à l'église et ça suffit pour que tu ne viennes plus. Fragile ce christianisme-là. Ou bien alors, certains disent « Ah, je suis désolé. » Samedi prochain, j'ai de la famille qui vient, je ne pourrais pas venir à l'église. Vous savez, je suis un peu fatigué, j'ai un petit rhume, je ne crois pas que je pourrais venir à l'église. Ou bien alors, j'ai vu un film super intéressant, c'était cool, c'était drôlement plus intéressant que lire l'esprit de prophétie, vous comprenez? Ou bien encore, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ont tous ces problèmes-là. Ça ne devrait pas exister. Mais Je crois que nous avons perdu à bien des égards la vision que le Seigneur nous a donnée et qui, à cause de cette vision perdue, rend notre christianisme si fragile. Mais enfin, je me dis, si des petites difficultés du chemin deviennent des obstacles si insurmontables, que va-t-il nous arriver le jour où il y aura des obstacles réels dans notre vie chrétienne? Avez-vous remarqué que dans notre 21e siècle, souvent notre christianisme, influencé par les exigences du monde dans lequel on vit, sans aucun doute, ce christianisme est devenu très fragile. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose pour que on ne vienne plus à l'Église, pour qu'on mette en doute l'amour de Dieu, pour qu'on ne soit pas sûr qu'il réponde à nos prières, pour qu'on ne soit pas sûr que le Seigneur veut agir dans nos vies, pour qu'on ne soit pas certain qu'il nous aime encore. Jésus offrait un visage d'amour, de paix, mais de détermination. Déterminé à nous sauver, déterminé à suivre la volonté de Dieu. Dans le livre « Ministère de la guérison » à la page 406, se trouve ce paragraphe et je ne résiste pas à la tentation de vous le lire parce qu'il contient un message extrêmement fort. Quand on pense à ce que signifient ces lignes, c'est extrêmement lourd de conséquences. Écoutez ceci. Un grand nombre de ceux qui se consacrent sincèrement au service de Dieu sont surpris et déçus de se trouver comme jamais auparavant, environné d'obstacles, assailli d'épreuves et de difficultés. Ils prient Dieu pour que leur caractère ressemble à celui du Christ et qu'ils soient aussi capables d'accomplir son œuvre. Cependant, ils se voient placés dans des circonstances qui semblent provoquer le mauvais côté de leur nature. Des fautes leur sont révélées dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence. Ils se demandent, comme les enfants d'Israël, si l'Éternel nous conduit, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Mais c'est précisément parce que Dieu les conduit que tout cela leur arrive. Les épreuves, les obstacles sont des moyens choisis par le Seigneur pour nous discipliner et nous aider à réussir. Celui qui lit dans le cœur des hommes les connaît mieux qu'eux-mêmes. Vous avez remarqué cette phrase ? C'est précisément parce que Dieu les conduit que tout cela leur arrive. J'avoue, pour moi-même d'ailleurs, que c'est beaucoup plus facile à lire qu'à recevoir et qu'à vivre. Cependant, c'est une réalité. Relisez tout simplement l'histoire des grands personnages de votre Bible, c'est leur réalité quotidienne. Et nous qui avons le privilège d'avoir la perspective de leur vie en entier, nous pouvons constater dans nos Écritures que ce passage est vrai. Ça correspond à la façon dont les serviteurs de Dieu ont vécu leur vie dans le passé. C'est aussi la façon dont nous, disciples de Jésus aujourd'hui, vivons notre vie chrétienne. Jésus était déterminé à traverser les épreuves, déterminé à avancer, quoi qu'il arrive, dans le plan que Dieu avait donné. Nous sommes invités chaque jour dans la prière à regarder dans le visage déterminé de Jésus. Un visage déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous sauver, déterminé à nous préparer pour son retour, déterminé à faire de chacun d'entre nous des enfants de Dieu pour son royaume éternel. La troisième caractéristique du visage de Jésus que j'aimerais dépeindre devant vous ce matin, c'est le visage meurtri de Jésus. Regardez par exemple avec moi ce texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 42 à 44. Au verset 42, nous retrouvons Jésus dans le jardin de Gethsémané et il est dit, « Il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombait à terre. Le visage meurtri de Jésus. Ce visage meurtri, on pouvait le voir déjà à Gethsémané. Il n'avait pris aucun coup de la part des soldats, mais déjà son visage était décomposé par la souffrance du poids du péché sur lui-même. Un autre passage, si vous voulez bien, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 26. Ce passage nous remet, bien entendu, dans les dernières heures de la vie de Jésus. Matthieu chapitre 26, au verset 67, il est dit ceci. Ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Le visage meurtri de Jésus. Le visage meurtri de Jésus, lorsque nous le contemplons dans la prière, c'est le visage de celui qui a accepté d'être obéissant jusqu'au bout. C'est justement à Gethsémané que Jésus disait, « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne seule. » Le visage de Jésus meurtri, c'est le visage de celui qui est obéissant, qui accepte d'être obéissant jusqu'au bout. Et en plus, cette obéissance de Jésus jusqu'au bout, c'est pour que moi je puisse en bénéficier. C'est pour que moi je puisse être sauvé. C'est pour que je puisse avoir aujourd'hui même l'assurance de la vie éternelle. Autrement dit, chaque jour, lorsque dans la prière, je contemple le visage meurtri de Jésus, je contemple le visage de celui qui est devenu mon exemple et qui m'invite à l'obéissance, comme lui a été obéissant. Son obéissance ne remplace pas la mienne, mais il a porté aussi mes souffrances. Quand je contemple chaque jour, dans la prière, le visage meurtri de Jésus, je ne contemple pas seulement le visage de ce Jésus qui, il y a 2000 ans, a donné sa vie pour moi. Je contemple encore aujourd'hui celui qui prend les coups pour moi. Dans le livre d'Ellen White, « Heureux ceux qui », à la page 61, à la page 71 en anglais, se trouve ce paragraphe. Écoutez-le bien, il est extrêmement profond. Le Père entourait son Fils de sa présence, et l'amour infini ne permit rien qui ne soit pour le bien du monde. C'est dans cette pensée que Jésus puisait sa consolation, et c'est là aussi que doit se trouver la nôtre. Celui qui est rempli de l'Esprit du Christ demeure en lui. Le coup qu'il va recevoir frappe le Sauveur qui l'entoure de sa présence. Tout ce qui lui arrive passe par le Christ. Point de besoin de résister au mal, car le Christ est sa défense. Rien ne peut l'atteindre sans la permission du Seigneur, et toutes les choses permises concourent au bien de ceux qui l'aiment. Autrement dit, le visage meurtri de Jésus n'est pas simplement le visage de Jésus il y a 2000 ans. Même si Jésus aujourd'hui est glorieux, il prend encore les coups qui nous sont assénés. Il est prêt à faire ce que la prophétie disait, à porter nos souffrances et à se charger de nos douleurs. Je réalise chaque jour dans ma prière, en contemplant le visage meurtri de Jésus, que Jésus porte encore aujourd'hui mes souffrances et mon péché. Contempler le visage meurtri de Jésus, c'est contempler le visage de mon Sauveur, aujourd'hui et jusqu'à la fin. Le dernier élément du visage de Jésus que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, c'est le visage souriant et compatissant de Jésus. Regardez ce texte avec moi dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9. Évangile selon Matthieu chapitre 9. Au verset 32, il est écrit ceci. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Je suis d'accord, il n'est pas dit dans ce texte que Jésus a souri. Mais réfléchissez un peu avec moi. On amène à Jésus un muet. Et Jésus va guérir cet homme. Que pensez-vous que cet homme va faire dès qu'il est guéri? Il va se mettre à parler, à parler, à parler, à parler. Il va parler, il va dire tout ce qu'il n'a pas pu dire pendant toutes ces années. Et vous voyez cet homme qui s'en va et qui parle à tous les gens qu'il rencontre. Et derrière, vous avez Jésus et les disciples. Mais Jésus et les disciples sont en train de rire devant ce spectacle. Jésus se réjouit de voir cet homme délivré, comme il s'est réjoui de voir délivrer tous ceux qu'il a guéris. Imaginez l'émerveillement de cet aveugle qui enfin voit, qui voit ce qu'il aime, qui voit le soleil, qui voit les oliviers, qui voit Jérusalem, qui voit ses amis. Et vous voyez aussi Jésus qui est là derrière et qui sourit, content de voir la délivrance dans la vie de cet homme. Alors on a ici un muet. Vous imaginez les disciples qui rigolent en voyant cet homme qui parle à tout le monde et qui parle à tout le monde et qui raconte tout ce qu'il n'a pas pu dire et qui n'arrivait plus à se taire. Le visage souriant de Jésus parce qu'il voit la délivrance chez ceux qu'il guérit. Regardez ce texte avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Évangile de Luc au chapitre 10, verset 21, il est écrit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » On était venu voir Jésus parce que des Grecs avaient demandé à le rencontrer. Ils avaient entendu parler de lui dans les pays lointains. Ils voulaient voir Jésus. Alors on les a amenés à Jésus et Jésus a été émerveillé. Jésus a été touché de voir que la bonne nouvelle du salut, qu'il n'avait pas encore gagné parce que c'était avant la croix, cette bonne nouvelle du salut commençait déjà à se répandre dans le monde et elle provoquait plus de joie et d'enthousiasme chez les gens qui étaient au loin que chez ceux qui étaient auprès. Et il nous est dit, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus est heureux, heureux de voir ces étrangers qui viennent et qui veulent voir le Sauveur. Jésus est heureux de voir ceux qu'il délivre de la maladie, qu'il délivre de la cécité, ceux qu'il délivre des handicaps de leur vie. Mais Jésus se réjouit aussi à la pensée de délivrer du péché tous ceux qui le reçoivent. Le visage souriant de Jésus. Le visage heureux de Jésus qui voit quelqu'un débarrassé de la maladie du péché. Heureux de voir quelqu'un enfin sauvé. Vous vous souvenez, Jésus disait, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour tous ceux qui n'ont plus besoin de repentance. Le visage souriant de Jésus, le visage amusé de Jésus, qui voit ces êtres humains jouir de nouveau des capacités qu'il a recréées en eux, la délivrance. Alors chaque jour, alors que nous nous présentons dans la prière devant notre Dieu, nous pouvons admirer le regard souriant de Jésus qui prend plaisir aux victoires que nous gagnons, qui prend plaisir aux délivrances qu'il nous accorde. Chaque fois que nous venons à Jésus pour obtenir de lui la délivrance, nous verrons un grand sourire sur le visage de Jésus, pour nous comme pour ceux qu'il avait délivrés de la maladie et qu'il avait délivrés du péché. Quatre aspects du visage de Jésus. Mais découvrir le visage de Jésus, apprendre à voir le visage de Jésus, c'est apprendre à découvrir son caractère qui s'exprime dans les traits de son visage lorsqu'il est avec ceux qui l'entourent, avec ceux qu'il aime. Apprendre à connaître le visage de Jésus, c'est apprendre à lui faire confiance. C'est apprendre à l'introduire dans notre vie quotidienne. C'est apprendre finalement à nous laisser apprivoiser par Jésus. C'est apprendre à nous préparer, à voir celui qui vient bientôt, de sorte que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons heureux de le voir finalement face à face. Amen.